En osmose toute la journée, retrouvez les acteurs du off.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du off.
L'Inde, un continent, un sous-continent si lointain et qui nous fait fantasmer, qui nous fait rêver, qui nous intrigue, qui nous déconcerte aussi. Parfois, en tout cas, qui ne suscite jamais l'indifférence. Il en est question aussi au Festival Off 2021 ici à Avignon. Et je reçois pour en parler un petit peu Isabelle Anna. Bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, ce n'est pas la première fois, et merci de revenir, puisque ce n'est pas la première fois non seulement que vous venez au Festival Off, mais que vous venez au Festival d'Avignon tout court. Vous venez présenter à nouveau le spectacle Katak à contre-courant, avec un K à chaque fois. C'est bien la première fois, et sans doute la seule, que je suis ravi d'avoir trois K d'affilée, hein, parce que le KKK dans le sud des États-Unis, c'est pas très réjouissant, mais dans le nord de l'Inde, avec vous, ça devient tout de suite plus magique. Alors vous êtes ici à Avignon pour une petite semaine, du 12 au 18 juillet, au Théâtre de l'Étincelle, tous les jours à 13h30 pour ce spectacle de danse contemporaine, Katak à contre-courant. Isabelle Anna, avec la compagnie Kalei Danscope, puisque vous nous faites miroiter différents aspects de la danse indienne, comme un kaleidoscope pour le coup. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est que le Katak, c'est quand même une danse qui est assez méconnue dans la culture indienne et que pour ma part, j'ai découvert grâce à vous, il y a 3 ou 4 ans, ici même à Avignon. On connaît pour le cas de l'Inde, on connaît la danse, le Bharatanatyam, qui est une danse sacrée du sud de l'Inde. Mais le Katak, c'est quand même un petit peu plus confidentiel. Alors, je me suis demandé comment vous-même, vous êtes venu à la danse indienne en règle générale et au Katak en particulier.
Alors, déjà, vous avez très bien résumé le spectacle et l'esprit du spectacle. Alors, la danse Katak, j'ai commencé par le Bharatanatyam à l'âge de 5 ans à peu près. Et il y a, en 98, j'ai découvert le Katak et j'ai eu l'occasion de partir il y a 20 ans en Inde, à New Delhi, grâce à une bourse bilatérale indo-franco-indienne.
D'accord.
Voilà, je devais rester un an. J'ai dit que je resterais 6 mois en arrivant et finalement je suis restée 10 ans.
C'est pas Marguerite Duras qui était partie pour rester quelques semaines à Pondichéry, puis qui elle aussi s'est laissée prendre au jeu du temps indien qui s'étire nonchalant le long du Gange, ou pas d'ailleurs.
C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment prédire la relation qu'on va avoir avec ce pays. Il est vraiment multiple et il ne correspond pas à toutes les personnalités non plus. Enfin, en tout cas, avec moi, ça a collé. Et c'est vrai que le Katak, ça a été une vraie révélation. Pour moi, c'était la danse qui fusionnait tout mon parcours artistique, que ce soit la musique, la danse avec la danse indienne, le théâtre également, la musique pour sa partie percussive et toutes les récitations d'onomatopées, et aussi le fait de devoir connaître tous les instruments qui accompagnent. Donc les instruments de l'orchestre, donc j'ai été formée au tabla, j'ai été formée au chant aussi en Inde. Voilà, donc la formation est vraiment très complète. Ensuite, pour une étrangère, une occidentale, qui fait de la danse indienne, c'est toujours difficile de... Eh bien, nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Donc on est un petit peu le vilain petit canard. On vient faire de la danse indienne en France, alors qu'en France, on préfère voir une indienne qui fait de la danse indienne. Voilà, il se trouve que bon, j'ai quand même été reconnue par le gouvernement indien, donc je pense que j'ai le niveau, voilà, qui...
est tout à fait honorable.
J'ai fait mes preuves.
Eux voilà, ont considéré que vous aviez le niveau honorable pour honorer leur culture, justement.
Et c'est vrai que j'ai voulu aussi m'exprimer à travers le Katak, donc me le réapproprier, parce que pour moi, le Katak, faisait résonner d'autres styles de danse. Et en effet, l'Inde a vraiment des ramifications très très larges avec d'autres cultures, avec la Perse, avec l'Espagne, bien sûr, puisque on dit que le flamenco découle du Katak. Donc il y a énormément de liens.
Via le peuple gitan qui vient de ces régions-là, justement.
Absolument.
Et dont le long périple est allé jusqu'en Espagne.
Et donc, après des recherches, en effet, j'ai retrouvé des mouvements qui ont été, qui se sont, insérés au fur et à mesure du voyage et qui ont donné après le flamenco. Voilà, donc tout le spectacle est sur ce type de travail, ce parcours. Donc c'est un triptyque La première pièce est vraiment traditionnelle, c'est une danse de courtisane, danse de cour. Il faut savoir que le Kathak a cette double influence, hindoue et musulmane, moghole. Personnellement, j'adhère vraiment à la culture moghole, les miniatures et tout l'esprit one man show et élégant, racé des danses de cours.
Parce que sans rentrer dans l'historique de l'Inde, ce sera un petit peu long, mais disons que l'hindouisme avait dominé dans toute la péninsule, et quand il y a eu l'invasion musulmane, dont ce que vous appelez la culture moghole, oui, puisqu'on l'appelle comme ça, il y a eu beaucoup d'influences artistiques et certains éléments de culture qui préexistaient à la période moghole se sont vus évoluer. C'est notamment du Kathak qui, à la base, comme le Bharatanatyam d'ailleurs, était une danse religieuse
et dansée dans les temples. En effet, c'était une danse des danseurs-conteurs, les Kathakars. Et d'ailleurs, on y reviendra, je crois, après pour parler du deuxième spectacle que je présente.
On en touchera quelques mots en fin d'émission, oui.
Donc, sur cette, où je me base vraiment sur cette origine du danseur-conteur, le Kathakar. Mais pour revenir à Kathak à contre-courant, en effet, cette danse a vraiment eu cette évolution à l'époque moghole et a été dansée donc dans les cours. Et en fait, les deux styles coexistent pacifiquement. Les deux écoles, les deux styles coexistent et continuent à exister. Donc on a, sur les spectacles traditionnels, on peut avoir une première partie hindoue et une deuxième partie moghole. Ça s'est un petit peu fondu les deux, voilà.
D'accord. Et donc des éléments de gestuelle notamment se retrouvent de part et d'autre.
Oui, tout à fait. Et aussi bien les hommes que les femmes dansent. Et ce qui m'a amené donc à la deuxième pièce qui est sur le Boléro de Ravel, sur une version plus intimiste des Sœurs Labec au piano. Réutiliser le langage Kathak et aussi être au bord du flamenco. Je me suis inspirée beaucoup du flamenco, des danses orientales aussi. Je suis allée travailler dans d'autres langages chorégraphiques pour nourrir ce spectacle, pour nourrir cette chorégraphie. Et la troisième pièce, le bal des mots, s'inspire en fait d'une question. Si le Kathak... Vous savez qu'en danse contemporaine, on aime beaucoup travailler sur un texte et le texte nous donne, va nous orienter vers un certain type d'interprétation en danse contemporaine. Et donc, si le Kathak était un texte, lequel serait-il? Et pour moi, le Kathak, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, c'est Kiki la cocotte qu'on entend dans le spectacle, c'est l'évadé du Nevada, c'est toutes ces phrases de diction avec plein d'allitération. Où je me suis amusée sur certains mouvements ou de poignets ou certaines frappes de pied. Et donc, en étoffant vraiment ce travail sur le langage, bien sûr, on revient à la base, au premier babillage. Donc, on entend la voix de mon petit garçon. On entend des alphabets, l'évolution de l'alphabet, comment... La prononciation, l'alphabet grec, un poème grec, il y a un texte d'Antonin Artaud aussi, les glossolalies, qui est vraiment purement sur le son, sur le mot.
Si je vous comprends bien, en fait, ce qui vous a intéressé dans ces voix off qui viennent se surajouter à la musique et donner un petit peu de substance, s'il en fallait encore, au ballet, eh bien, ce sont des textes qui jouent beaucoup sur le rythme des mots, parfois même plus que sur leur sens. D'où la poésie, d'où ces différents alphabets qui se succèdent, d'où la poésie d'Antonin Artaud, d'où les différents textes que vous avez choisis. Alors que, pardonnez-moi, mais a priori, puisque le Kathak est ancienne danse religieuse qui s'est transformée en danse de cour, on aurait pu s'attendre à des poésies de courtisans, tout simplement, de la poésie galante, car il y en a eu en Inde aussi.
Oui, mais comment...
Le pays des mille et une nuits, presque.
En fait, le Kathak technique se base sur des onomatopées, qui sont des sons un petit peu barbares, déjà à dire, et à entendre aussi.
Qui font un peu écho au son des percussions et des frappes de pied, peut-être.
Exactement, la manière de frapper le pied, que ce soit à plat, la tranche, la demi-pointe, le talon, si c'est une pirouette, le type de mouvement. Donc tout est donné par onomatopées, des onomatopées indiennes. Mm-hmm. Donc ça sonne de manière très particulière. Et en Occident, ça ne nous parle pas. Par contre, quand on dit splash, badaboum, whiz, crack, enfin, ça nous
comme
parle.
Comme Brigitte Bardot dans la chanson de Serge Gainsbourg. Voilà,
voilà, exactement.
Batoubam, whiz. Eh bien, voilà. Et donc dans ces trois tableaux qui constituent le cœur, le corps de ce ballet de danse contemporaine, Katak à contre-courant, vous faites un syncrétisme, si j'ose dire, entre ces différentes influences que vous êtes allé glaner dans tous les pays qui ont des racines, qui ont des éléments de culture dont les racines plongent en Inde, et aussi dans cette tradition très très symptomatique de l'Inde du Nord qui correspond à des régions au nom un petit peu exotique pour nous autres, le Rajasthan, le Punjab, peut-être un petit peu le Cachemire, peut-être, je sais pas.
Un petit peu, oui, Rajasthan, Punjab, un petit peu, Uttar Pradesh.
À cheval entre le Pakistan et l'Inde, quoi, grosso modo.
Oui, tout le nord, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, autour de Delhi. Toute la partie nord.
Toute cette partie-là, voilà. Et donc, bah, on connaît beaucoup pour les danses indiennes, on connaît un peu la danse thaï et toute la précision des gestes qui va avec et qui consiste un peu à mimer des histoires, en fait, des histoires de dieux, en fait, les aventures des dieux souvent. Le Bharatanatyam reprend ces éléments-là aussi et puis ils ont beaucoup évolué vers le Kathak que vous vous réappropriez dans ce ballet et auquel vous ajoutez différents éléments comme vous venez de l'expliquer. Il y a d'autres éléments qui, moi, plus prosaïquement, m'intrigue beaucoup, bah, ce sont des éléments purement matériels, hein, des éléments de mise en scène, comme les magnifiques robes que vous portez. Alors, c'est tout à fait impressionnant, des robes. Alors déjà, non seulement elles sont très belles en elles-mêmes, mais en plus, vous les faites tournoyer, il faut arrêter, ça me rend fou là. Mais, et puis aussi, un instrument un petit peu singulier, ce sont les grelots que vous portez aux chevilles.
En effet, les grelots sont comme un instrument de musique, donc ils sont portés au pied des danseuses. Il faut savoir qu'il y a quand même 10 styles classiques en Inde. Donc, il n'y a pas que le Bharatanatyam et le Kathak. Vous en avez 8 autres. Et chacun est différent, un petit peu comme des...
C'est très codifié, en fait.
C'est très codifié. En fait, on a le même alphabet, mais pas utilisé de la même manière ou pas la même grammaire, si vous voulez.
D'accord.
Un peu comme des langues latines qui sont voisines, qui se ressemblent, mais qui ont chacun... leur particularité. Donc c'est un petit peu la même chose pour les danses indiennes. Donc le Kathak est très différent du Bharatanatyam, de l'Odissi, du Kuchipudi, du Mohiniyattam, de la danse Satriya, du Kathakali, du Kudiyattam, etc. Le Kathak est la seule danse qui a cette forme aussi d'improvisation très très forte, où le danseur est celui qui va diriger sur scène et pas l'orchestre.
Ah, ça c'est un détail dont on n'avait pas forcément conscience en effet.
En fait, c'est la même essence qu'on retrouve dans le flamenco. Les codes de compréhension musicaux et chorégraphiques sont communs.
Oui, parce qu'il y a les fameux compas au flamenco qui donnent une discipline commune aux danseurs et aux musiciens.
C'est ça, mais en fait, ils se comprennent, ils ont le même langage, ils arrivent à se comprendre. C'est un peu le même principe au niveau du Kathak, donc on connaît les rythmes, le nombre de temps. Et en fait, le danseur de Kathak récite les onomatopées de la composition qu'il va danser. Le musicien, il n'y a pas eu de répétition normalement avant, sur scène, entend la composition et va l'accompagner instantanément en accompagnant donc le danseur. Et c'est du direct.
Un dialogue d'une grande spontanéité qui va finalement assez vite.
Le spectacle se crée. On peut avoir un canevas comme ça, une trame de spectacle, et puis sentir que en fait le public a envie de plus de pirouettes, plus de. On peut sentir quand on est artiste, on sent la réponse du public. Et en fait, c'est vrai que le public en Inde applaudit dès qu'il y a quelque chose de...
Comme pendant les films de Bollywood dans les salles de ciné.
Oui, on applaudit tout de suite, c'est très très vivant. Et ça, c'est génial. On n'attend pas à la fin.
Le public n'est pas neutre, voilà.
Non, il y a une vraie vie, il y a une vraie communion entre l'artiste et le public. Et souvent même, ça s'interpelle, ça parle. Enfin, il y a un côté très, très détendu, très... Voilà. Et donc, le spectacle se compose comme ça, au fur et à mesure du ressenti avec le public. Et c'est vraiment une création sur scène. Et en fait, on connaît notre répertoire, on a tout le répertoire en tête, en permanence. Donc, on sort comme un magicien qui sortirait de son chapeau des tours. On sort des tours de magie comme ça.
Donc un spectacle total, si j'ose dire. Alors un truc qui m'intrigue, enfin un aspect qui m'intrigue, mais ça c'est plus par rapport à l'actualité que par rapport à ce spectacle que vous ne me représentez pas pour la première fois, en règle générale et certainement pas à Avignon, c'est que bon, ben, la situation politique en Inde évolue beaucoup et on sait que le gouvernement indien actuel est assez hostile aux minorités musulmanes qu'il y a dans le pays. Hein. Il y a eu des guerres civiles, notamment après la décolonisation en 47, tout ça. Et du coup, ben, c'est en c'est assez tendu. Et pourtant, vous êtes toujours, comment dirais-je, vous êtes toujours, vous voyez toujours attribuer la confiance du gouvernement indien, sinon son label. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez eu des complications à ce niveau-là, si le fait que vous représentiez un aspect musulman de la culture indienne, qui est pourtant partie intégrante, eh bien, si ça vous avait valu des problèmes, ou comment vous voyez évoluer la situation à ce niveau-là, puisque vous connaissez bien le pays, y compris de l'intérieur.
Alors, dans le Katak, on a l'aspect hindou et l'aspect musulman, moghol. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas... Il n'y a pas une étiquette. Ce n'est pas parce que je danse régulièrement plutôt le style moghol, mmh, avec le costume moghol, qu'on me donne une étiquette et que je ne fais pas de l'hindou. Je fais aussi des poèmes hindous, je fais aussi des chants dévotionnels. Donc, c'est plus le Katak dans sa globalité. Pendant les presque 10 ans que j'ai passé en Inde, j'ai trouvé que c'était quand même le pays où toutes les religions pouvaient vivre ensemble. Ça m'a paru être le pays le plus laïque aussi, puisque chacun a sa religion. Il y a des jours de congé, il y a très peu de jours de congé. Les Indiens prennent très peu de vacances. Et en fait, sur le calendrier annuel, vous avez des jours de congé pour les Sikhs, les jours de congé pour les Hindous, les jours de congé pour les musulmans, les jours de congé pour les chrétiens.
En ce sens, ça n'a rien de laïque, excusez-moi.
Et ben si, c'est l'acceptation de toutes les... Mais il n'y a pas une religion qui dirige le pays. C'est vrai que les choses sont en train de changer. Je ne veux pas trop me...
Bah, la situation est encore en gestation, donc on va pas faire des pronostics, ce serait idiot. Mais c'est vrai que j'étais assez curieux de votre ressenti par rapport au fait que les choses s'assombrissent un petit peu. Bon, bah, je suis rassuré de savoir que si demain vous faites vous représentez au Pakistan, vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Tant mieux.
Au Pakistan, c'était un petit peu tendu.
Oui, ouais, mais pour d'autres raisons.
Ça a été tendu parce que je suis française.
Exactement.
Voilà.
Le pays des mécréants qui publient dans Charlie Hebdo, voilà.
Pour moi, la danse indienne, mais toutes les danses en fait, ou tous les arts, c'est quelque chose d'universel. Ma manière de passer du traditionnel au contemporain, c'est aussi pour créer un pont culturel et rendre le Katak plus accessible. Mais je le vois de manière beaucoup plus éclatée, et pas seulement c'est moghol, c'est hindou, c'est plus ben, c'est une langue que j'ai apprise, et puis je veux parler le Katak. Voilà. Je veux danser le Katak.
Et le Katak, donc, qui se trouve au carrefour de toutes les influences que vous avez citées. J'utilise le terme de syncrétisme, il n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais il correspond un peu à cette idée de mélange. Alors donc, c'est Katak à contre-courant du 12 au 18 juillet au Théâtre de l'Étincelle à 13h30 et en matinée. Vous présentez un autre spectacle où il est toujours question de communiquer votre amour de la danse, mais à un jeune public, celui-ci, c'est avec les contes d'Amrita.
Tout à fait.
C'est au théâtre à l'Andalous.
Exactement, à 10h20, donc du 12 au 18 également, sans relâche. Donc j'incarne Amrita, la favorite, qui est au palais et qui va compter pour les jeunes, pour les enfants. Mais c'est également accessible pour les plus âgés. Ce sont des contes qui sont extraits du Panchatantra.
Ce sont comme des fables en fait.
C'est comme des fables en fait. Les contes du Panchatantra sont à l'origine des fables de La Fontaine.
D'Ésope puis de La Fontaine.
D'Ésope et de La Fontaine, voilà. Donc oui, c'est vrai que La Fontaine a pioché chez Ésope et dans les contes du Panchatantra.
On n'a pas de preuve que Ésope ait pompé sur le Panchatantra, mais bon, c'est disons qu'il y a tellement de similitudes qu'on. Il y a quelque chose d'universel, c'est toujours
et
ça.
Et donc, ces contes du Panchatantra ont quand même pour but d'éduquer, à la base, ils avaient pour but d'éduquer le jeune prince et de le mettre dans toutes les situations possibles de la vie par des histoires donc, d'animaux. Voilà, où on doit prendre une décision, où on apprend, il y a une morale à chaque fois. Et voilà, son apprentissage se faisait de cette manière.
Très bien. Donc, pour l'édification des plus jeunes, n'hésitez pas à reprendre le programme des jeunes princes d'île d'Antan en Inde avec ce spectacle, les contes d'Amrita.
Pardon, je vous coupe.
J'ai dit une bêtise.
Non, très bien. C'est juste qu'il n'y a pas que du conte. Les contes sont accompagnés de gestuels. Je suis pas que.
Oui, oui, bien sûr. Voilà, vous représentez aussi la danse, le katak.
Il y a la danse
dans ce contexte-là.
Donc
oui.
Il y a des passages de danse. Il y a toute la gestuelle qui va en fait servir un peu de sous-titrage ou le contraire, si vous voulez, le texte va servir de sous-titrage à la gestuelle qui accompagne le conte.
Dans Pierre et le Loup, Prokofiev avait attribué une petite mélodie de chaque instrument à chaque animal qui entourait Pierre, en l'occurrence. Et vous faites la même chose, mais avec des mouvements de danse dans les contes d'Amrita. Merci Isabelle Anna d'être venue nous parler de ces deux spectacles, Katak à contre-courant, à 13h30 au Théâtre de l'Étincelle. Et nous, chers amis, histoire de nous mettre un petit peu dans l'ambiance si étrange et si particulière de ces ballets indiens et de la musique qui va avec, je vous propose quelques notes de musique pour continuer.